Bien. Eh bien, nous allons démarrer cette première table ronde. Quelques mots simplement d'introduction pour présenter ce temps de travail. Je rappelle le titre des cadres légaux autorisant le partage d'informations. Quels effets sur les pratiques professionnelles et les organisations? Alors, le travail a été préparé par un groupe de travail qui a préparé cette table ronde, donc qui est composé de professionnels et d'étudiants, IUT et FTS, avec une large représentation des services, donc je les cite, ASE Sud Grésivaudan, la polyvalence Bièvre-Valloire, prévention spécialisée, service social, éducation nationale, dispositif réussite éducative, délégué aux prestations, conseillère ESF, donc du beau monde. Le groupe s'est réuni 4 fois depuis début janvier. Les échanges ont été de très grande qualité, avec une forte implication de chacun. Les débats ont souvent été passionnés, nous éloignant parfois du thème, mais permettant un enrichissement mutuel et une meilleure compréhension des enjeux en référence, en particulier. Donc, Chantal Cornier en a dit beaucoup tout à l'heure sur la question juridique de la loi du 5 mars 2007. Les lois du 5 mars 2007 a précisé que concernant la loi prévention de la délinquance, vous l'avez vu, c'est une loi fourre-tout qui remet en cause 20 codes différents. Donc, on n'est pas prêt de s'en sortir. Nous nous sommes appuyés sur quelques textes, tels les écrits de l'ANAS, cités aussi par Chantal, qui font référence, ou des articles du Forum français avec Marcus, ou même de Pierre Verdier. Notre cheminement collectif a montré à quel point ce thème préoccupe fortement les professionnels, quelle que soit leur institution d'appartenance. L'ensemble du groupe est resté pourtant avec des interrogations qui seront sûrement des points de nos débats. La première interrogation, la relation avec les personnes accompagnées n'est-elle pas fragilisée dans ce contexte de partage de l'information? Qui, on l'a vu, juridiquement n'est pas stabilisé et renvoie beaucoup à la responsabilité personnelle. C'est le premier point qui, évidemment, n'a pas pu être élucidé dans nos débats, donc peut-être ce sera fait aujourd'hui. Le deuxième point, qu'en est-il devant une complexification du travail, de la mise en œuvre dans nos institutions publiques et associatives de temps d'analyse des pratiques? Je ne savais pas que Chantal en parlerait, mais c'est vraiment un des points sur lesquels il me paraît essentiel de trouver des réponses dans nos institutions pour fonctionner correctement. Avant de donner la parole à nos 3 intervenantes, que je vais présenter en quelques mots, les étudiants vont exprimer des paroles d'étudiants à partir de leur vécu de stage. Donc, les étudiantes, je les présente, étudiants et étudiantes, Clarisse, qui est de l'IUT, et Yvonne, qui a été prise en otage par les étudiants de l'IUT, donc puis qui est de l'IFTS. Je l'avais dit on le dirait que tu es prise en otage. Marion, Mara, Elsa, Rémi et Sylvain, donc tous étudiants assistants sociaux à l'IUT, qui vous feront part successivement d'exemples très rapidement, mais pour illustrer les interrogations qui sont les nôtres aujourd'hui. Les 3 intervenantes que vous voyez, j'ai de la chance, hein, faut reconnaître. Alexandra Dantrou, donc qui est éducatrice spécialisée à l'ASE, qui fera part de nos réflexions à propos de la place et de l'intérêt de l'usager, c'est ça? Ensuite, Aurélie Sylvestre, qui est éducatrice en prévention spécialisée, qui questionnera autour des notions de partenariat et de réseau. Qu'est-ce qu'il y a, Corinne? Et ensuite, Maud Redon, donc à ma gauche. Je me suis trompé, j'ai des problèmes, hein. Entre la droite et la gauche, mais bon, ça arrive. Donc Maud, qui est assistante sociale polyvalente de secteur, qui abordera la question de la répercussion de l'évolution de la société sur nos pratiques. Pour terminer cette petite introduction, un mot de remerciement à tous les membres du groupe pour leur engagement, hein, puisqu'il a été constant, avec une mention particulière à Corinne Serve, qui est là, qui est conseillère technique au Conseil général, qui a animé tous nos temps de travail avec détermination, compétence et puis avec un beau sourire. Ouais, ça aide quand même quand on travaille, hein. On n'est pas obligé de toujours être triste. Voilà, je vais passer la parole aux étudiants pour vos témoignages. C'est Clarisse qui commence, je crois. Ou Yvonne. Clarisse? Vas-y, Clarisse.
Comme tu veux. Comme tu le sens.
Non, non, mais non. Alors, je suis étudiante assistante sociale en troisième année à l'IUT 2. Donc dès le début de notre formation de travailleurs sociaux, les questions du secret professionnel et du partage d'informations sont abordées. Alors elles le sont au début de manière assez technique. Donc on va apprendre les textes de loi, les professions soumises ou non au secret professionnel. Et on va prendre vraiment conscience de la complexité de la notion du secret professionnel lors de nos stages, où on va être confronté à de nombreux doutes et de nombreux questionnements. Questionnements qui vont souvent rester sans réponse et qui vont nous amener à d'autres questionnements. Et on va alors prendre conscience de la nécessité de discussions fréquentes dans nos centres de formation, de journées comme celle-ci, et aussi de toujours avoir à l'esprit de pourquoi on dit quelque chose, dans quel but, et si c'est toujours dans l'intérêt de l'usager. Et la complémentarité des apports théoriques et pratiques nous permettent progressivement de construire notre propre positionnement professionnel, positionnant qui doit sans cesse s'adapter aux évolutions législatives et sociétales. Voilà. Bon, j'ai la voix un petit peu cassée.
Merci Clarisse. C'est vrai que ce matin, tu parlais plus. Hein. Je vais passer la parole à Yvonne. Donc, après toutes les interventions, on aura un débat, bien sûr, hein, qui est prévu tout de suite derrière.
Donc, je m'appelle Yvonne, je suis en deuxième année de formation d'éducateur spécialisé à l'IFTS, prise en otage, comme vous l'a précisé, Monsieur Brion. Hein? Voilà, mais c'est avec plaisir que je suis là, quand même. Voilà, Madame Corny avait parlé tout à l'heure qu'on ne ferait pas mention de l'outil informatique. C'est dommage parce que moi j'avais préparé justement un écrit là-dessus. Hein? Mais bon. Hein? Donc, en première ouverture notamment, je disais que parmi ces évolutions, ce n'est pas tant l'outil informatique en tant que tel qui pose problème, mais plutôt la façon de l'utiliser ou de la façon dont effectivement le professionnel va s'en servir. Hein? Et puis, je me permettais un petit exemple qui n'a peut-être strictement rien à voir avec, mais bon, après tout, on a aussi le droit de rigoler. Hein. Je disais que, par exemple, le permis de conduire, c'était pas parce qu'on était titulaire du permis de conduire que ça nous donnait forcément le droit de commettre des infractions. Voilà, donc nous avons un outil informatique, il faut tout ça pour dire que savoir l'utiliser le mieux possible. Hein, il est là, il nous est utile. Après, c'est à nous de le gérer, ou j'allais dire même de le guider, de le dominer, entre guillemets, hein, de savoir le dominer avec conscience. Voilà. Après, donc, les questions qui émergent alors concernant le tri des informations communiquées entrées dans l'ordinateur. Les informations saisies sur informatique ne sont-elles pas tout simplement celles pour lesquelles l'usager nous a donné son accord ? Sans trouver que c'était un point important, c'est vrai que bon, on peut entrer toutes sortes de données, mais est-ce que effectivement le point de vue de l'usager ou ce que l'usager souhaiterait que l'on fasse apparaître, que l'on pourrait après divulguer entre professionnels, parce que bon, avec le travail en réseau, en partenariat, voilà, c'est avoir l'accord de l'usager. On trouvait que c'était assez important de le mentionner. Puis j'en arrive à la deuxième ouverture, donc qui est face à la multiplication des textes juridiques. Chacun ne fait-il pas sa propre interprétation et venant par là même complexifier le cadre et amener certains professionnels à outrepasser le cadre de leurs fonctions et divulguer certaines informations qui n'ont pas lieu d'être. Alors là, ça nous envoyait à une question, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Curiosité malsaine, mais propre à chacun d'entre nous. Après, bon, ben, c'est à nous, déontologiquement, de se poser la question. Est-ce que, bon, cette information nous est réellement utile ou c'est juste pour le plaisir de détenir une information, voilà, qui peut être croustillante ou peu importe, mais voilà, qui va enrichir, juste notre curiosité, tout simplement. Voilà, j'en ai fini avec mon intervention.
Merci Yvonne. Alors ensuite, je ne sais plus si Elsa, elle est par là, oui, ça y est, je t'ai retrouvé. Je ne savais plus si c'était toi qui intervenais ou Marion. Non ? Alors vas-y Elsa.
Donc bonjour à tous, je suis en première année assistante sociale à l'IUT2. Moi j'avais envie de me pencher sur un petit problème un petit peu précis, c'était notre rapport au secret selon les différentes cultures professionnelles. Parce qu'il est vrai que pour beaucoup d'assistantes sociales, on peut se retrouver à travailler dans l'éducation nationale, donc avec des professeurs, d'autres personnels, et ça peut parfois nous poser quelques petits problèmes, parce qu'on n'a pas le même rapport avec les usagers, on n'a pas le même rapport aussi entre pros. C'est-à-dire que, bon, ça arrive souvent, j'en ai entendu parler par des rencontres, par des personnes qui m'expliquaient que, excusez-moi, c'est dur, que malheureusement, il y a cette fois des informations qui sont balancées comme ça, alors qu'elles ne devraient peut-être pas être dites, elles ne devraient pas être entendues par tous. Parfois, on a des élèves qui traînent dans les bureaux, on a aussi des parents d'élèves. Et bon, je m'interrogeais un petit peu à savoir comment on pouvait essayer de travailler toujours ensemble, mais voilà, et peut-être échanger aussi avec tous ces autres personnels sur comment on pourrait voir le secret, reclarifier les choses, de manière à ce que l'usager, dans tous les cas, voilà, il retrouve son compte. Voilà.
Merci. Mara, oui, et Marion. C'est un binôme cette fois-ci.
Bonjour à tous. Donc nous, on est élèves en première année assistante sociale à l'IET2. Et donc, comme nous l'a dit Elsa, en fait, on s'est vraiment intéressé sur le fait du partage d'informations, pas qu'entre assistantes sociales, mais aussi, et puisqu'on l'a vu dans plusieurs domaines comme le RMI, le passage d'informations en fait se fait avec différents professionnels. Et le problème, c'est de savoir quelle information en fait on peut passer avec les différents professionnels, dans quel cadre. De quelle manière, à travers les différentes institutions, on a vu qu'il y avait des informations qui étaient propres au Conseil général, d'autres propres au CCAS. Et on s'est un peu interrogé sur savoir comment travailler avec les autres professionnels, comment transférer les informations et surtout qu'est-ce qui reste en fait d'un passage de témoin en fait et comment les transférer. Et puis on s'est aussi interrogé en fait sur dans quel cadre en fait on pouvait passer les informations entre nous, entre AS, puisque je pense que quand on est stagiaire, on se rend très vite compte que la pause café est très importante dans tous les centres sociaux et que nous sommes des grands consommateurs de caféine. Mais le problème, c'est de savoir dans quel cadre pouvons-nous passer les informations et est-ce que le cadre de la pause café rentre dans nos habilitations. Donc voilà.
Bonjour. Moi, je me suis rendu compte un peu pendant mon stage qu'il y avait un petit peu un décalage en fait entre la théorie, en fait, la théorie qu'on apprenait dans les textes juridiques et la pratique. Donc Mara a parlé des pauses café. C'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intimité de la personne qui sont dévoilées, peut-être pas intentionnellement, mais comme ça. Et c'est vrai que je me suis posé cette question en fait du débordement du secret partagé du partage de l'information et surtout entre professionnels qui sont dépositaires donc du secret professionnel. Donc on a évoqué que ça se fait depuis longtemps et qu'il n'y avait pas forcément de cadre, mais maintenant qu'il y en a un, est-ce qu'on va y arriver à le faire, voilà, tout simplement. Et donc, est-ce qu'on va arriver à privilégier donc l'intimité de la personne, sachant que je pense que ça fait partie de nos formations, donc de favoriser donc la relation de confiance avec la personne et donc de protéger son intimité. Voilà.
Voilà. Et puis pour finir, ça nous interroge surtout sur les limites de l'information qu'on peut transmettre et à quel moment en fait. On devient trop indiscret et à quel moment aussi l'assistante sociale doit arrêter le transfert d'informations, que ce soit vers un autre public ou vers un autre professionnel. Voilà, merci.
Je ne me rappelle plus si c'est Rémi ou Marion. Rémi ou Sylvain, pardon. C'est Sylvain, je ne savais plus. Il y a tellement peu de garçons que je perds leur prénom. Bon, allez, à toi.
Bon, ben, bonjour. Donc, je suis étudiant en première année assistant social. Et donc, je vais opter quelque chose qui est plutôt récapitulatif, parce qu'on a dit à peu près les mêmes choses. C'est où est la limite du partage d'informations? Moi, je l'ai vu sur mon lieu de stage. C'est-à-dire que sous couvert du partage d'informations, on se permet de tout dire, de connaître toute la vie des usagers, de leur famille, de leur contexte. Est-ce que ça apporte quelque chose vraiment au travail social et aux études de situation? Et je terminerai sur quelque chose de peut-être un peu critique, mais je me demande où est le respect de l'usager quand on raconte toute sa vie dans le centre social. Voilà.
Merci. Bon. Ok. Eh bien, on a fait le tour des premières paroles d'étudiants. Je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole à Alexandra pour démarrer cette table ronde. Et les trois intervenantes vont parler et ensuite il y aura le débat. Voilà. Vas-y, à toi.
Bonjour. Donc, avant de commencer, je voudrais m'excuser car je ne suis pas très à l'aise à l'oral, donc je vais lire. Ce sera plus simple. Donc, nous avons pu voir comment la loi réformant la protection de l'enfance pose le cadre du partage d'informations à caractère secret entre professionnels et le limite à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection. Il est donc indispensable pour le travailleur social d'avoir une connaissance précise des textes de loi faisant référence et cadrant le champ du partage d'informations entre professionnels. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance vient donner une existence légale à une pratique ayant toujours existé et relevant d'une nécessité pour permettre un accompagnement de la personne. Toutefois, ce partage d'informations vient questionner le fondement même de notre travail, de la relation d'aide qui se construit autour de la notion de confiance et de garantie du secret entre l'usager et le travailleur social. La collaboration entre professionnels doit donc s'articuler autour de la question fondamentale du respect de l'usager et du choix des informations à transmettre nécessaires à son accompagnement et à sa protection. Pourquoi partager des informations? Dans quel objectif? Et en quoi est-ce utile? Ces questionnements sont essentiels afin de toujours positionner la personne au centre de ce qui va se partager. Ceci afin d'éviter la divulgation d'informations inutiles et le sentiment de contrôle qui peut en résulter pour l'usager et de toute puissance du travailleur social. Dans ce contexte, comment éviter le piège du contrôle, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer une situation de danger pour l'enfant? Comment partager autour de la notion de danger ou risque de danger sans porter atteinte au respect de la personne? L'intérêt de l'usager, en lien avec la mission de protection, doit être le fil conducteur du travail partenarial et nécessite une vigilance encore plus importante lorsqu'il s'agit d'évaluer une situation de danger. Afin d'illustrer cette nécessaire vigilance, je vais exposer ici deux exemples assez concis, mais mettant en avant le besoin d'avoir un positionnement professionnel respectueux de la personne dans un cadre défini et les conséquences aussi pour l'usager de la divulgation d'informations sans en être averti. Donc, il s'agit d'une situation où deux enfants d'une même fratrie sont scolarisés en classe de maternelle et de primaire dans une classe unique d'un petit village. Donc, l'instituteur est inquiet pour ses petites filles, problèmes d'hygiène, suspicion de maltraitance. D'autre part, la TSEM qui intervient dans l'école livre des éléments subjectifs sur la famille qu'elle rencontre en dehors du cadre scolaire. Donc, enfants négligés, logement précaire, sale. Donc, l'instituteur qui connaît bien le maire, ça doit être un copain à lui, lui en parle. Et ce dernier met la situation à l'ordre du jour du conseil municipal. Voilà. Donc tous les élus, les femmes des élus, les copains des élus sont informés des difficultés de cette famille. Hein. Je spécifie juste que cet exemple se situe avant la loi de réforme hein, de la prévention de la délinquance. Donc voilà, sans entrer dans les détails de cette situation, cet exemple montre la nécessité pour les partenaires d'avoir une connaissance du dispositif de protection de l'enfance. La responsabilité d'évaluer une situation de danger en incombe à l'autorité administrative et plus particulièrement au cadre du service de l'aide sociale à l'enfance qui doit coordonner la conduite de ces évaluations. Cet exemple met en avant également le sentiment de crainte et de contrôle qui peut en résulter pour la famille et le non-respect du droit à sa vie privée. Comment travailler dans la confiance avec ces personnes après que leurs difficultés aient été divulguées sur la place publique ? Comment éviter le sentiment de trahison qu'ils ont pu ressentir ? Donc, je vais également donner un deuxième exemple qui n'a rien à voir avec un exemple de protection de l'enfance. Donc, une personne a sollicité un agrément auprès de la PMI afin d'exercer le métier d'assistante maternelle à son domicile. Cette demande est en cours d'instruction par la puéricultrice de la PMI. Ce service dépend du conseil général. Les locaux sont attenants à ceux du service social. Lors d'une discussion informelle au coin café, certainement, le travailleur social du secteur de résidence de cette personne entend la puéricultrice parler de cette demande d'agrément. Le travailleur social connaît cette personne qui rencontre des difficultés relationnelles avec son fils qui est adolescent. Le travailleur social divulgue à la puéricultrice tous les points où la personne a exprimé être en difficulté avec son enfant. Qu'est-ce que la puéricultrice peut faire de ces informations reçues sans que la personne en soit informée ? Va-t-elle pouvoir garder son objectivité sur les compétences de cette personne ? Des difficultés ponctuelles avec un adolescent sont-elles synonymes d'une incompétence à prendre en charge des enfants en tant qu'assistante maternelle ? La connaissance de ces informations ne va-t-elle pas parasiter l'instruction en cours au détriment de la personne ? Voilà. Donc, au regard de la multiplicité des intervenants, le travail en partenariat semble indispensable afin de développer des interventions cohérentes auprès de la personne. Ce travail de collaboration doit s'inscrire dans un cadre garantissant le principe du droit au respect de la vie privée de la personne prévu par l'article 9 du Code civil qui a été déjà énoncé donc auparavant. La garantie de ce principe doit rester le fondement du travail partenarial. La personne concernée doit être positionnée au cœur des échanges et de la réflexion, soit en étant impliquée et participante, soit en étant prévenue des propos qui seront tenus et de l'objectif de ces échanges. C'est pourquoi il est d'autant plus important de repérer avec qui on partage, profession, fonction, mission, car on n'est jamais sûr de la façon dont vont être reçues par l'autre les informations et comment elles seront utilisées pour ou contre l'usager. L'identification des partenaires, qu'ils soient travailleurs sociaux, élus, familles d'accueil, bénévoles, personnel de l'éducation nationale, est donc primordiale et doit permettre de créer une méthodologie dans le partage d'informations. Ce travail de collaboration doit, de ce fait, pouvoir s'inscrire dans un cadre repérable pour chacun, tant pour l'usager que pour le travailleur social. En effet, ce dernier se doit d'être le garant de l'intérêt de l'usager. Il s'agit ici de notre responsabilité professionnelle. Le travailleur social est souvent pris entre l'injonction et la nécessité de travailler en partenariat et peut lui-même se perdre dans les méandres des informations qu'il peut ou non partager. La question de sa subjectivité devient alors cruciale. Chaque professionnel adopte ses propres pratiques en fonction de son éthique personnelle et de sa déontologie professionnelle. Le travailleur social est habitué à jongler entre ce qu'il dit, ce qu'il tait et à qui. La nécessité de se référer à un cadre légal est apparue comme importante, mais pas seulement. Le besoin d'évacuer une partie de sa subjectivité est également apparu comme primordial afin que la personne soit l'ultime bénéficiaire du partage d'informations. Ainsi, la mise en place d'analyses de la pratique éducative au sein des équipes de travailleurs sociaux est indispensable afin d'éviter les risques de dérapage, de divulgation d'informations tout azimut sans garde-fou. Cette analyse de la situation doit permettre au travailleur social d'être dans une posture d'objectivation des faits et non pas que dans les ressentis. Pris entre le secret professionnel et la nécessité du partage d'informations, le travailleur social doit donc pouvoir lui-même s'inscrire dans un dispositif lui permettant de garder une objectivité et d'assurer à l'usager une qualité de service. Sans ces lieux d'échange, de réflexion et d'analyse, on provoque de plus en plus de discussions informelles entre deux portes, où l'intérêt des personnes n'est plus assuré, ni le droit au respect de sa vie privée. Si ce principe ne peut plus être assuré, ne prend-on pas le risque de voir les personnes déserter les services sociaux, aggravant par là même l'isolement, la précarité et la désocialisation au profit d'une politique renforçant le contrôle, la répression et l'exclusion ?
Merci Alexandra. Tu lis bien, hein, il n'y a pas de problème. Ah ouais, c'était très bien. Des points très importants en intervention. Donc vous notez, vous enregistrez pour alimenter le débat tout à l'heure. Je pense que il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut discuter, mais aussi peut-être avoir chacun d'entre nous des exemples aussi qui peuvent se rapprocher de ce que tu as dit. Je passe la parole à Aurélie.
Alors bonjour à tous. Donc moi je reviens plus particulièrement sur les notions un petit peu de partenariat et de réseau. Il y a des petites choses qui ont déjà été dites, mais du coup ça va faire rappel. Et puis à la limite pour ceux qui avaient du mal un peu ce matin, ça renforcera ou ça rééclaircira certaines choses. Donc comme Alexandra le disait tout à l'heure, la question du partenariat émerge bien de l'idée que pour soutenir au mieux les personnes, il est nécessaire de rendre cohérentes les actions engagées par divers professionnels. Cette question est croissante, car la spécialisation du travail social tend à multiplier les intervenants sociaux sur un même territoire et pour les mêmes familles. Je crois que c'est bien ce qui nous mobilise aujourd'hui, c'est cette croissance de ce questionnement dans nos pratiques. Donc, mais dans un premier temps, il nous paraissait intéressant de revenir à la notion de partenariat, de la redéfinir un petit peu. Donc elle vient bien du mot partition, partager. Et pour partager, il faut d'abord séparer. Si je vous parle d'un bon gâteau aux pommes, quand on vous dit qu'on va le partager, hein, on pense bien qu'on va le couper en morceaux. Mais ça signifie aussi mettre en commun. Et c'est bien dans notre profession, ce qui vient souvent se mettre en avant, c'est la question de mettre en commun. Alors qu'est-ce qu'on doit posséder en commun pour mener à bien notre mission ? Donc comme il a été dit ce matin, c'est la loi de 2002 relative aux droits du malade qui a ouvert la législation du partage d'informations. Les lois du 5 mars 2007 en ont conservé les grands principes, mais du coup pas forcément les mêmes. Alors la loi de protection de l'enfance donc, autorise le partage d'informations, je vais passer assez brièvement puisque Madame Cornier l'a bien développé, donc précise que les partenaires doivent participer à la même mission de protection de l'enfance ou lui apporter leur concours, hein, puisqu'il y a même des bénévoles parfois qui peuvent être concernés par ça. Donc ils doivent poursuivre un objectif commun d'aide et de protection et informer les usagers de ce partage. La loi dite de prévention de la délinquance ouvre ce partage à d'autres corps professionnels. En réclamant que ces derniers interviennent auprès de la même personne ou même famille, elle instaure la mise en place d'un coordonnateur si un professionnel, après appréciation de la situation, a constaté une aggravation des difficultés. Donc nous insistons bien sur le fait que ces deux lois se sont engagées de manière très différente. Donc pour l'une, elle a été initiée par l'État dans une visée sécuritaire, alors que l'autre, qui cherchait à limiter les dérives de la première, a été construite après de nombreuses réflexions, des groupes de travail organisés dans une grande partie de la France, comme le précisait José Arias. Donc, en tant que travailleur social, il nous semblait important de nous poser ces questions essentielles dans des situations de partage. Donc, la présence de chacun des partenaires est-elle toujours légitime quand on se retrouve autour de la table ? Poursuivons-nous toujours un objectif commun ? Avons-nous un lien avec l'usager ou la famille lorsque nous parlons ou entendons parler de certaines situations ? Et les usagers sont-ils toujours informés au préalable de ces échanges qui les concernent ? Ce n'est pas du tout forcément le cas. Alors pour illustrer nos propos, nous avons choisi d'évoquer le dispositif de réussite éducative assez récent. Donc on l'a évoqué ce matin, je vous en donne brièvement un tout petit aperçu. Donc il a été mis en place par la loi de cohésion sociale de 2005 et impulsé par les communes classées REP. Donc sa mise en œuvre est très très variée sur chaque commune. Donc très brièvement, il consiste à évaluer des situations individuelles d'enfants de 2 à 16 ans pour lesquelles des difficultés sont repérées. Il vise ainsi à mobiliser les compétences de plusieurs partenaires, travailleurs sociaux, personnels de l'éducation nationale, animateurs, services municipaux, afin d'appréhender et d'accompagner une situation dans sa globalité avec l'accord de la famille. Si ce dispositif a le mérite de vouloir prévenir les difficultés d'un enfant, il nécessite cependant la mise en place d'un cadre déontologique précis, porté et partagé par tous. En effet, toutes les personnes présentes pour évaluer la situation n'ont pas forcément de lien avec l'enfant évoqué. Donc là, par rapport au questionnement qu'on se posait tout à l'heure, on se rend compte que du coup, là, dans ce cadre-là, ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, on se demandait si l'anonymat de ces personnes n'était pas une condition sine qua non pour que ça puisse fonctionner. Les professionnels présents ne partagent pas forcément la même culture professionnelle. Il y a tout à l'heure des étudiants qui sont intervenus sur cette question-là. La question de la culture professionnelle est importante. Je crois que dans la nôtre, on la porte beaucoup. Du coup, là, on partage des choses avec des professionnels qui ne sont pas forcément dans cette culture du secret, sur laquelle nous, on travaille beaucoup. Est-ce que du coup, on ne peut pas voir comment la créer, cette culture professionnelle ? Non soumis au cadre de la protection de l'enfant, ce dispositif laisse la liberté aux professionnels de respecter ou pas une éthique, un partage d'informations utiles, voire à caractère caractère secret, et donc par là, la vie privée des enfants et de leurs familles. C'est entre autres pour ces raisons qu'une charte départementale a été rédigée, donc elle sera abordée cet après-midi. Je passe pas plus de temps là-dessus. Mais du coup, on se demandait si le rôle des travailleurs sociaux dans cet espace n'était-il pas, est-ce que le rôle n'est-il pas d'être garant du droit des usagers, chacun ayant droit au respect de sa vie privée, comme il a été dit ce matin aussi. Et comme ça va être répété, je pense, tout le long de la journée. Donc, à travers cet exemple, nous voyons bien qu'être en capacité de partager au sens de séparer, donc de se répartir le travail, puisque c'est bien pour ça qu'on partage à la base, nécessite non seulement une connaissance des fonctions et des missions de chacun, mais aussi une reconnaissance et une confiance à minima de la manière dont chaque professionnel cherche à accomplir sa mission. Donc, cette confiance, comment on peut l'avoir dans les autres, mais comment aussi on peut faire en sorte que les autres l'aient par rapport à nous. C'est pourquoi nous parlions de culture commune à créer, car elle permettrait d'éviter que les représentations et les attentes des professionnels les uns vis-à-vis des autres ne viennent parasiter la réflexion. Alors, comme le stipulent les lois de 2007, cette démarche de partenariat réclame aussi une bonne évaluation de la situation de l'usager. Dans nos pratiques, pourtant, de nombreuses informations se partagent entre deux portes ou autour des machines à café, comme ça a été dit. Alors, qu'en est-il de la réflexion et de l'analyse de la situation ? Parfois dépositaire d'informations humainement lourdes à porter seules, puisque c'est parfois le cas des travailleurs sociaux qui portent seuls certaines informations, de quel lieu d'échange disposent les différents professionnels et les avons-nous toujours ? Parce que je crois qu'il y a des professionnels qui n'ont pas forcément ces lieux d'échange dans leurs institutions. Afin de prendre le recul nécessaire, permettant l'émergence de ces informations strictement nécessaires à partager, puisqu'en théorie, il n'y a que ça qu'on doit pouvoir partager. En théorie. Et que pouvons-nous d'ailleurs dire de ce flou concernant les notions de l'article 375 du Code civil reprises par les lois de 2007 concernant la situation préoccupante sur les enfants en danger ou susceptibles de l'être ? C'est très subjectif ce terme-là. La qualité de discernement des professionnels et leur appréciation en conscience n'est-elle pas de plus en plus interpellée avec cette nécessité de partager dans une démultiplication des dispositifs d'aide ? Puisque le problème est bien là, c'est qu'il y en a tellement de plus en plus, qu'on y est de plus en plus et qu'on a de plus en plus besoin de partager ou qu'on nous le demande de plus en plus. Et à travers tous ces dispositifs, donc ça c'est important aussi, les usagers ont-ils les moyens de percevoir les tenants et les aboutissants de ces interventions ? Par exemple, pour reparler du DRE, les parents ont-ils conscience qu'en acceptant cette aide, ils vont exposer leur situation à un dispositif qui concourt à celui de la protection de l'enfance ? Donc, pour clore nos propos, retenons que le partenariat est incontournable pour créer de la compétence collective, puisque c'est bien ça l'enjeu du partenariat, et une cohérence dans nos missions qui vise à soutenir des parcours de vie. Mais la massification et la démultiplication des dispositifs ne sont-ils pas en train de modifier, de noyer l'éthique et la finalité de notre travail, et par là d'entraîner une banalisation du non-respect du droit de chacun à sa vie privée ? Il nous paraît clair que plus que jamais, nous devons faire appel à notre éthique personnelle et à la déontologie de notre profession, ça a déjà été beaucoup dit, on le répète encore une fois, afin de pouvoir conserver et garantir un souci réel de l'intérêt de l'autre et de ne pas voir reculer le respect du droit à la vie privée et à la dignité, parfois déjà très éprouvée pour les publics que nous choisissons de soutenir dans nos professions. Voilà, merci.
Merci Aurélie. Chantal, tout à l'heure, disait qu'il fallait qu'on soit le poil à gratter. Voilà, on s'approche quand même déjà un petit peu. Tout à l'heure, on pourra aller jusqu'à la subversion. Mais bon, c'est si vous voulez, hein, ça dépend de vous aussi. Comment ? Non, on va être calme. Je passe la parole à Maud pour continuer. Tu parles dedans.
Donc il va y avoir des choses, des redites probablement, mais bon, en ce qui nous concerne, on s'est intéressé aux répercussions de l'évolution de la société sur nos pratiques professionnelles. Donc moi aussi je vais m'attacher un peu au texte parce que je ne suis pas très à l'aise comme ça pour l'oral. Donc face aux mutations de la société sur fond de crise sociale, professionnels du travail social, nous accompagnons des individus de plus en plus atomisés, en perte de lien et plus vulnérables. Dans notre pratique quotidienne, nous pouvons tous constater une massification des problèmes sociaux allant de pair avec une diversification des publics. Parallèlement, et compte tenu de l'évolution de notre travail, nous assistons avec la multiplication des dispositifs type DRE dont Aurélie nous a parlé, au développement du partenariat entre divers professionnels intervenant dans le champ du social et qui ne sont pas tous travailleurs sociaux. Pour mener à bien nos missions, nous sommes ainsi amenés à recueillir, traiter quantité d'informations, mais aussi échanger avec un nombre croissant d'intervenants n'ayant ni les mêmes statuts, ni les mêmes missions, et pas forcément soumis au secret professionnel. Nous vivons aussi dans une société où les frontières entre espace public et espace privé sont de plus en plus floues. Donc là, on fait référence aussi à la télé-réalité, voilà, qui illustre cette tendance, ce qui peut parfois nous mettre en difficulté dans l'appréciation des situations, dans ce qui doit être vraiment protégé et sauvegardé, ce qui doit être transmis ou non. Nous intervenons ainsi dans un contexte de tension, d'injonction qui peuvent paraître contradictoires, donc ce qui a déjà été dit aussi. Mouvement que nous pouvons aussi observer sur le plan juridique et avec les lois du 5 mars 2007. Nous assistons d'un côté avec la loi réformant la protection de l'enfance à une déjudiciarisation des situations au profit de l'administratif et une responsabilisation accrue des parents en référence au contrat de responsabilité parentale et de l'autre avec la loi de prévention de la délinquance à un durcissement répressif notamment par la volonté de sanctions rapides avec le risque d'un non-respect des libertés individuelles. Alors même que l'État se désengage de plus en plus, celui-ci légifère et contrôle de plus en plus ses citoyens. Notre société est en demande de sécurité croissante, relayée par la médiatisation sans fin de faits divers. Nous assistons ainsi à une prolifération de textes juridiques, de réactions à chaud. Alors on fait référence à la chasse traque aux sans-papiers, chasse aux pauvres. Et il est bien question de manipulation idéologique des discours sur l'insécurité et la délinquance, d'exploitation de ce débat. Donc on fait référence aux mécanismes de pouvoir en jeu dans les discours. Donc même si ce n'est pas le sujet comme on nous l'a rappelé, il nous est paru important de préciser que ce contexte de sécurisation actuel en parallèle de l'arrivée de nouveaux outils informatiques dans nos services a suscité de vifs débats, a parasité nos réflexions et beaucoup d'interrogations. Donc ce qu'il était nécessaire d'évoquer ici. Le besoin de surveiller les comportements des individus de toutes les manières et dans tous les domaines se fait de plus en plus sentir dans notre société, en référence aux travaux de Michel Foucault, Surveiller et punir, d'une société panoptique, y compris dans notre champ, dans le champ social. On peut suggérer cette notion de contrôle social qui est peut-être trop utilisée de manière indéfinie, mais qui est effectivement le fait de bien d'autres acteurs que les seules autorités policières et judiciaires. Celui-ci s'exerce de manière beaucoup plus diffuse, insidieuse, par exemple des associations caritatives qui effectuent des entretiens préliminaires avec leurs bénéficiaires. Les dispositifs de surveillance sont plus sophistiqués, avec notamment le développement de nouvelles technologies comme les caméras de surveillance, télésurveillance, GPS, mais aussi et surtout en ce qui nous concerne, on ne parle pas du fichier base élève, même que... Edwige qui a été évoquée, mais en ce qui nous concerne, la collecte d'infos nominatives informatisées des personnes en difficulté. Donc les questions qu'on s'est posées, c'est comment agir face à une approche sécuritaire des problèmes sociaux ? Jusqu'où peut-on aller dans le partage d'informations au nom de ce besoin de sécurité ? Le maillage institutionnel se fait aujourd'hui plus précis et notre environnement professionnel est de plus en plus automatisé. Le mot d'ordre est à la rationalisation. Il nous faut gérer au mieux. Les nouvelles technologies ne sont-elles pas légitimées car elles simplifient et accélèrent les procédures ? Le croisement d'informations entre administrations ne faciliterait-il pas aussi l'accès aux droits ? Faut-il ainsi avoir peur de ces nouvelles technologies qui s'immiscent peu à peu dans nos pratiques ? Que faut-il en penser ? Sommes-nous dans une société de type orwellienne ? Quel est le rôle des institutions ? Sommes-nous des acteurs de ce contrôle ? De façon parallèle, nous vivons l'émergence d'une société du risque où nous ne supportons pas de ne pas avoir de prise sur les choses. Nous sommes bien là face à cette notion de contrôle dans l'autre sens, dans le sens de pouvoir, de puissance, de maîtrise. Or, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Donc, et notre pratique dans tout cela, donc on s'est interrogé sur des préconisations, quelles attentes. Dans un tel contexte, si le partage d'infos peut s'avérer nécessaire, la possibilité de le faire entre un nombre croissant d'intervenants, mais aussi sur divers outils informatiques, peut banaliser la notion d'info à caractère secret et ouvre une brèche. En écho à ce que nous, avons déjà développé précédemment, nous n'avons pas besoin de tout savoir sur les personnes afin de les accompagner au mieux. Et en ce qui concerne l'appréciation des deux textes de loi sur la protection de l'enfance et la prévention de la délinquance, il faut rappeler que le principe reste le secret, le partage étant limité à ce qui est strictement nécessaire. Notre rôle peut être d'informer les personnes usagers que nous accueillons, qu'elles n'ont pas à tout déballer, si je puis dire, ou révéler de leur situation pour prétendre à un accompagnement. Cette nécessité de contenir la parole de celui qui est dans l'attente d'une aide fait normalement partie de notre pratique en travail social, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres intervenants. Se pose alors la question d'une culture commune professionnelle, qui a déjà été soulevée précédemment. Informer les professionnels d'autres champs nous soumis au secret professionnel avec lesquels nous échangeons, mais aussi les élus, des limites à ce partage d'informations. On peut dire aussi que ces élus sont d'ailleurs parfois détenteurs d'informations malgré eux. On a fait référence par exemple aux factures EDF impayées dont les élus sont au courant, voilà. Enfin, que les élus reçoivent. L'idée de partager des infos pour le bien des personnes est bien souvent à l'heure, surtout quand on n'a pas grand-chose à proposer en retour. Donc il faut aussi appeler à la vigilance. Enfin, on voulait appeler à la vigilance, c'est un mot qui a déjà été dit. Je ne sais pas s'il faut dire résistance, en tout cas vigilance, face à une croyance démesurée en la technique, car celle-ci pose de nouveaux problèmes. Attention à ne pas se laisser enfermer dans des procédures, de la technicité pure, mais aussi dans le contrôle et le maintien de populations en survie. Au glissement de la notion de sécurité réclamée par tous à celle de contrôle par tous et pour tous. C'est peut-être là que nous avons aussi une responsabilité dans ce qui nous échappe. On nous dit que notre société est complexe, une société de la complexité, ce qui peut être facteur d'aliénation. Il ne faut pas perdre de vue le sens de notre agir. On peut faire référence ici aux valeurs éthiques qui sous-tendent notre travail, mais peut-être aussi de notre responsabilité éthique dans ce qui se passe aujourd'hui et peut se passer demain. Chaque professionnel porte ainsi le devenir du secret professionnel et par là du travail social. Dans une société de la subjectivation généralisée, il est important que les professionnels bénéficient de soutien dans leur pratique, de lieux d'échange et de réflexion, ce qui a déjà été dit. Notre proximité avec des populations fragilisées et souvent stigmatisées nous oblige à un sens critique à l'égard d'idées toutes faites ou de solutions évidentes. Il nous faut ainsi encore et toujours nous interroger sur le sens de notre intervention et du partage des informations dont nous sommes les garants. Voilà, merci.
Merci Maude. Donc, évidemment, la parole va circuler. Il y a deux micros qui vont être mis à disposition de... C'est qui y va ? Voilà, donc ils sont là, les micros. Juste une petite précision. Je constate que dans les trois interventions, il y a quand même au moins deux, trois points transversaux qui nous préoccupent et qui, visiblement... préoccupe nos collègues de façon forte et le groupe de travail aussi. C'est la question de l'informel qui visiblement est relativement présent et est un espace de partage malgré nous parfois. Voilà, donc c'est le deuxième point sur lequel j'allais venir, Aurélie me le souffle, mais ça pose la question qui a été évoquée par les trois intervenantes de lieux formels d'échange à la fois d'analyse des pratiques, mais aussi de lieux organisés et identifiés sur le plan institutionnel pour savoir où on parle et où sont les limites. Donc il me semble qu'il y a ces deux points qui sont transversaux et qui probablement mériteraient qu'on en parle un peu plus. Mais au-delà de tout ça, il y a des tas d'autres éléments qui font débat, donc la parole est à vous. Si vous ne la prenez pas, je vais être obligé de passer à une désignation démocratique. Hein ? Il y en a qui savent que je pratique ça, mais je ne vais pas aller jusque-là. C'est vrai que c'est difficile de prendre la parole, mais ça y est, ça marche. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Est-ce que les micros marchent déjà ?
Je ne sais pas.
Si... Oui, ça marche.
Voilà. Bon, je suis assistante sociale, hein, tout simplement. Donc, moi, je voudrais poser deux questions aux étudiants qui sont en formation. Je voudrais leur demander s'ils... parce qu'on parle beaucoup d'échangés, donc je pense qu'on parle beaucoup d'oral. Moi, je voudrais demander si ce qu'ils pensent du rôle que joue le dossier social, c'est-à-dire quand un usager quitte un secteur, il va sur un autre secteur, et il y a quand même un dossier ou des données qui ont été recueillies, parce que certes, il y a les échanges oraux au niveau de la pause café, vous avez dit, je crois. En tout cas, il y a forcément des échanges entre les travailleurs sociaux dans des réunions de travail. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur qu'est-ce que ça veut dire un dossier social et des données qu'on écrit quelque part et qui restent pas forcément dans l'informatique et qui vont être peut-être transportées malgré vous un jour.
Dossier social, donc qui est-ce qui veut prendre la parole là-dessus pour donner son point de vue? Alors des étudiants sont interpellés, mais ça peut être des professionnels aussi, bien sûr.
Bonjour.
Puisque... Oui.
Bonjour, je suis donc étudiante en deuxième année à l'IFTS, en formation d'assistante sociale, et c'est vrai que nous nous sommes posé la question aussi par rapport aux écrits, parce que contrairement à l'oral, l'écrit reste, et quand on retrouve dans les dossiers des éléments datant de plusieurs années, on peut se dire, est-ce que ce n'est pas un moyen de figer la personne dans une situation qui n'est plus forcément d'actualité ?
C'est il y a très longtemps, il y a au moins 20 ans, donc c'est plus d'actualité, mais j'avais lu dans un dossier, dans une maison d'enfants à caractère social, je crois que c'était un point de vue d'un travailleur social ou d'une psychologue, mais peu importe, cette jeune fille est une future criminelle. Quand on lit ça et qu'on s'occupe de cette jeune fille, vous imaginez ce que ça peut produire dans nos représentations. C'était écrit, je ne l'ai pas inventé, mais il y a longtemps, ça ne peut plus arriver aujourd'hui. On est d'accord. Donc la question des écrits, effectivement. D'autres... Oui. Allons-y.
Bonjour, donc moi je suis éducatrice spécialisée dans un centre d'hébergement et je voudrais réagir par rapport à cette question de l'écrit parce que parfois seule est la personne finalement est... reste dépositaire de son parcours de vie, heureusement, mais parfois on accompagne des personnes qui sont pas en mesure de dire certains éléments de leur vie, qui sont pas effectivement futurs criminels, parce que je pense qu'on peut écrire d'autres choses dans des dossiers qui soient des éléments qui fassent un lien et qui évitent que, par exemple, on refasse une évaluation, qu'on refasse des choses comme ça qui seraient inutiles. Donc moi, je pense que il faut pas tout diaboliser et que l'écrit, ça peut être important pour faire trace. Voilà. Et je voulais, mais pas une trace négative, hein. Et je voulais, puisque j'ai le micro, profiter. Tout à l'heure, j'ai relevé, je pense que c'était Madame Dantrou, qui parlait de comment est-ce que de ce qui reste en fait dans les j'ai perdu mon fil attendez je retrouve par rapport enfin c'était par rapport à la posture, c'est-à-dire ce que j'entendais c'était que il fallait faire attention à ce qui se transmettait. Alors évidemment autour du café, etc. Apparemment, bon, il y a beaucoup de pauses café où je sais pas. Peut-être il n'y a pas les bons lieux où on dit les bonnes choses, je ne sais pas. Mais moi, je suis inquiète en fait quand j'entends ça parce que pour moi, c'est avant tout une question de posture. Et on peut être maire, on peut être enseignant, on peut être éducateur, on peut être AS ou n'importe. Je veux dire, c'est une question de posture, de comment est-ce qu'on intègre de quelqu'un qui nous donne une information, que ce soit dans le professionnel ou dans la sphère privée, de comment on va l'intégrer et comment on va avoir quelque part la dignité de pas la raconter à tout le monde. Donc je pense que il y a des outils, effectivement, peut-être, il faut faire attention, mais avant tout, ce qu'il faut peut-être vérifier auprès des travailleurs sociaux, alors peut-être déjà au niveau de la formation, c'est qu'il va y avoir cette posture de de garder pour soi et de ne pas tout dire. Alors l'analyse de la pratique probablement est un moyen de pouvoir dire à l'extérieur des choses qui seront aussi gardées effectivement dans le secret de la séance et qui n'en sortiront pas. Mais je pense qu'il faut travailler là-dessus, sur soi avant tout, parce que cette part subjective, on l'aura toute notre vie. Hein. Toute notre vie, on va être touché par des situations et toute notre vie, on va devoir faire face à ce qu'on va nous dire d'un secret ou de quelque chose qui va être difficile. Et comment on va gérer ça. Et je pense que c'est d'abord ça qu'il faut faire.
Alexandra, tu veux rajouter quelque chose sur ce point, puisque c'était une question que tu as soulevée ? Non ? Non ? C'est bon ? Vas-y.
Peut-être rebondir par rapport à la posture professionnelle. Ma collègue parlait aussi de culture professionnelle, mais pas seulement au niveau des travailleurs sociaux, mais effectivement... En ce qui concerne les faits qui ont pu être dits au maire, ou je crois qu'au-delà de la posture, c'est aussi la culture professionnelle, effectivement, et l'éthique, évidemment, hein, chose dont on a parlé.
Oui, je me permets de. Moi, je suis étudiante en deuxième année, donc EDUXP à l'IFTS.
Tu as été libérée, là.
Oui, voilà. Je rebondis sur la question qui a été posée. En dehors de la posture, de l'éthique, déontologie, tout ce que l'on voudra, moi je crois que surtout il y a un problème de locaux parfois, hein, que souvent, les manques de budget ou alors les locaux ne sont pas adaptés. Effectivement, une collègue peut aller voir une autre collègue pour lui parler d'une situation d'un usager qui vient de sortir de son bureau. Et il se trouve que la salle d'attente, elle est démarquée. Des fois, ils appellent ça le lieu de confidentialité ou je ne sais plus quoi. Vous avez une petite bande et puis voilà, qui se trouve à quelques pas de là. Bon, elle ne vient pas forcément là dans le hall pour parler de cet usager. Elle est dans un lieu précis et il n'empêche que du fait des locaux, tout le monde peut bénéficier de l'information, et notamment les gens qui sont là, qui attendent leur tour pour eux aussi aller exposer. Donc, tout ce que je voulais rajouter.
Okay.
Parce que j'ai été confrontée à ce genre de...
Effectivement,
c'est un exemple que j'ai vécu.
La limite peinte par terre, c'est comme les frontières avec Tchernobyl. Hein, ça peut se passer. Hein. Par rapport à ce que vous disiez, madame, je pense que c'est effectivement un point extrêmement important qui est complexifié par, et je reprendrai ce que disait Maude, par le fait qu'on est dans un contexte qui est de plus en plus tendu, où les solutions aux personnes, à apporter aux personnes dont on a la responsabilité, la charge, je ne sais pas comment dire, en tous les cas, qu'on côtoie professionnellement, les réponses sont de plus en plus difficiles, voire rares, voire impossibles. Et qu'il me semble que la tendance parfois à partager des informations peut être une manière de compenser notre incapacité de répondre, qui ne dépend pas que du travailleur social, bien sûr. Et, enfin, je m'interroge là-dessus, en tous les cas, comme un dérapage, évidemment, d'une posture qui devrait être... inamovible sur ce point-là, mais pourtant, le contexte nous pousse peut-être à partager plus parce qu'on a du mal à trouver des réponses. En tous les cas, je pose la question. D'autres prises de parole, allez-y. Vas-y, Alexandra.
Je voulais revenir à ce qu'a dit la dame par rapport au dossier et à la transmission. Moi, il me semble que c'est quelque chose qu'on a un peu travaillé. C'est vrai qu'il y a quand même un garde-fou, entre guillemets, c'est de se dire que tout ce qui est dans les dossiers peut être lu par l'usager. Hein. Donc, moi, je crois que c'est important de garder en tête, quand on fait un rapport, que ce soit une évaluation, un rapport au juge pour enfants, que ce qui est dit dans le rapport soit compréhensible pour que l'usager puisse en faire quelque chose aussi. Donc, il me semble que c'est pas une question qui est si problématique en soi, dans le sens où ce qui est dans le dossier doit logiquement être accessible à l'usager. Donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter.
Il y a deux prises de parole. Vas-y, Chantal, ensuite Françoise.
Non, juste pour compléter, mais parce qu'on commence à faire un peu ancien combattant, je crois que cette question-là, elle est centrale. Non, mais je dis ça pourquoi ? Parce qu'en aparté, je dis à Françoise, il y a 25 ou 30 ans, quand un usager à l'aide sociale à l'enfance venait demander son dossier, on triait les pièces avant. Je vous assure, c'est véridique. Oui, mais oui, il faut quand même dire qu'il y a quand même eu des évolutions qu'il faut noter, tout n'est pas comment parfait, mais je crois que cette question-là de dire que les pièces qui sont dans un dossier, un, peuvent être saisies par la justice, hein, je vous le rappelle, et de deux, qu'un usager, et une personne, un citoyen, et c'est aussi la liberté sur l'accès aux documents administratifs, chacun peut savoir ce qui est écrit sur lui, ce qui est dit sur lui, ça me paraît... je voulais le souligner, une question centrale, parce que ça a été une grosse, grosse évolution quand même dans l'histoire.
Oui, je suis éducatrice spécialisée, je travaille dans un service de prévention spécialisé, puis aussi à la maison des adolescents. Et en fait, moi, il y a une question qui m'est venue tout au long de la matinée, c'était, ce qui est beaucoup revenu, c'était l'idée qu'on doit informer l'usager ou la personne qu'on accompagne. Et moi, je me posais la question de savoir si ce qui faisait aussi difficulté par les professionnels, enfin, pour les professionnels aujourd'hui, c'était pas la question de la place.
Je vous l'avais alors, pas ça, dit, mais on a prévu une censure extrêmement sophistiquée.
Voilà. Merci.
Merci la technique. Non,
mais c'est quand même intéressant de voir que voilà, vas-y. On peut pas parler de la place des familles qu'on accompagne. Oui, alors c'est la question de est-ce que informer c'est suffisant pour vraiment faire, aider les personnes à cheminer, aider les personnes à pouvoir être aussi moteurs. Et pouvoir produire, enfin qu'elle puisse arriver à transformer elle-même des choses. Et je crois que cette question-là, elle est fondamentale parce que très souvent dans notre pratique, on observe des situations où en fait les familles, elles vont être demandeuses à un moment donné de pouvoir solliciter des professionnels. Et en réalité, les instances qu'on leur propose, elles sont pas invitées. Et c'est vrai que même dans la pratique plus courante du travail, on peut faire sans les familles, sans les parents. Et c'est vrai que moi, je pense que cette question-là, elle est fondamentale et qu'effectivement, elle pose la question de la place des professionnels.
Ce que tu veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'informer, c'est comment on sollicite l'accord. Alors, et la présence.
La participation,
la
collaboration, la construction, tout à fait, ouais. La co-construction professionnelle et famille.
Oui, parce qu'informer, on peut s'en dédouaner assez vite, quoi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, peut-être qu'effectivement, cette question de la place des personnes qu'on accompagne, elle bouscule la place des professionnels. Et elle nous demande de travailler autrement. Et c'est vrai que j'avais une autre réflexion à partager avec vous. C'est sur la question de la question du secret. Enfin, moi, c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que je me demande si en fait on n'est pas en difficulté à parler de la manière dont nous travaillons, professionnels. Comment on s'y prend pour travailler avec cette famille ? Qu'est-ce qu'on met en place et qu'est-ce qu'on a imaginé ? À partir de nos propres représentations, qu'est-ce qu'on a imaginé et comment on va le partager avec l'autre professionnel et qui va être au service effectivement de la personne qu'on accompagne. Et est-ce que de déballer la vie privée des gens, c'est pas aussi une manière de se cacher de notre façon de travailler et de comment on ne sait pas forcément toujours bien faire et comment on partage avec les professionnels. Et je crois que si on se met à partager en fait nos pratiques, comment on s'y prend ? Voilà, moi j'ai inventé ça, j'ai imaginé ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, on se dégage la question de l'histoire de cette famille, de son parcours, de ses problèmes, de ses difficultés. Et au contraire, on est dans une co-construction entre professionnels sur, effectivement, qu'est-ce qui pourrait amener cette famille effectivement, à reprendre un peu les rênes de son parcours.
D'accord. Donc, tu rajoutes une petite couche par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure en lien avec l'intervention de madame. Sur nos limites aussi et nos difficultés parfois à trouver des soutiens, des réponses, c'est qu'on a peut-être un peu du mal parfois aussi à dire ce qu'on fait et nos intentions. Et évidemment, en lien avec nos représentations sociales qui sont parfois lourdes. Il y a une prise de parole tout en haut, là. J'entends ma collègue Aurélie qui me dit ouais, mais quand même, des fois, pour obtenir quelque chose, il faut déballer, quoi, parce que sinon, on n'a rien. Hein. Ah, ça, c'est une vraie question. Hein.
Bonjour, moi, je suis Catherine Guillaumet, je suis assistante sociale de secteur. Voilà, donc je voulais enchaîner, puisque, comme me disait ma voisine de gauche, c'était le moment. Et puis, je voulais rebondir sur cette histoire de posture, parce que le message que j'aimerais transmettre, notamment aux étudiants, c'est qu'est-ce que c'est que d'être professionnel. Et professionnel, en tout cas, moi, du haut de mes quelques années d'expérience, c'est aussi de reconnaître et de repérer qu'on est aussi des hommes et des femmes et qu'on accueille les gens avec tout un parcours, des émotions, et que nous aussi, on a des émotions. On a des colères, on a des tristesses, on n'est pas bien, on se sent impuissant, etc. Et que ces fameux temps informels derrière, parfois, eh ben, c'est parce que c'est tellement difficile à gérer, eh ben, qu'on se lâche. Alors tout ça pour dire quoi? Effectivement, tout à l'heure, j'entendais qu'il y avait sûrement à démultiplier des lieux, en tout cas pour les professionnels, sur des temps. Alors j'ai entendu analyse de la pratique, effectivement, il existe d'autres lieux, sans en faire de la pub. Mais en tout cas, je pense qu'il est de la responsabilité de l'institution de faire une large place à ces lieux-là et à ces temps-là, parce que nous aussi, on est fait d'émotions. Et ça, dans notre métier, on va dire, le cœur de notre métier, c'est de travailler justement sur le relationnel. Et pour prendre soin du travail social, il faut aussi prendre soin de soi. Il n'y a rien à faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment un travail de longue haleine, mais me semble-t-il, en tout cas, ça participe aussi à tenir ses limites, hein, de partage d'informations, etc., mais avec cette variable d'humanité. Voilà.
Merci beaucoup de rappeler ça. C'est important de se redire ce qui est essentiel quand même dans ce travail. Il y a encore des prises de parole là-haut, donc vous laissez le micro en haut.
Bonjour, Patricia, je suis éducatrice en MEX. Donc je voulais simplement dire par rapport aux garde-fous, c'est vrai qu'il y a eu la loi de janvier 2002. Après, il y a eu dans les établissements les démarches qualité obligatoires. Et c'est vrai que, par exemple, dans notre MEX, par rapport au secret professionnel, on a aussi fait, par exemple, des livrets pour les nouveaux salariés, parce que le secret professionnel n'était pas abordé pendant les commissions d'embauche. Donc je pense qu'il y a plein d'outils à mettre en place, et je pense que c'est les professionnels de terrain qui doivent s'en saisir. Voilà.
Oui. Il me semble qu'il y avait encore une prise de parole tout en haut, non? C'est juste la circulation du micro, donc à gauche. Ok, ça y est, je vous vois. J'ai les projecteurs dans les yeux, donc j'y vois plus rien. Mais c'est ça, la scène.
Je me présente, je m'appelle Christine, je suis une collègue de celle qui a parlé de posture là tout à l'heure. Je travaille dans un centre d'hébergement. Aussi. Nous, notre chance, je pense, hein, on est une petite équipe, très petite, et on travaille avec des adultes qui ont parfois pas mal de problématiques psychiques, mais qui ont justement pas peur de dire non, de nous embêter, de dire ça se fait pas, et du coup, j'ai l'impression par rapport à toutes celles qui travaillent avec des enfants ou des adolescents, on a cet avantage-là qu'on nous stoppe dans notre dépassement personnel, enfin de pouvoir en dire trop. Moi, j'ai cette impression-là. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi, dans l'autre sens, avec les familles, des fois, on en dit trop? Peut-être parce qu'aussi notre système social, c'est une question, hein, j'ai pensé tout haut, est assez infantilisant parfois. C'est-à-dire que, voilà, on infantilise les familles parce qu'on vient les aider, on vient les soutenir. Alors que si on se met au service de ces personnes, c'est pas facile, hein, parce que des fois, on en a marre. Mais du coup, ça relativise et ça nous remet à notre place, à nous. Et du coup, ça permet aux personnes de retrouver leur place d'être adultes, même si c'est des enfants de 10 ans. Pour anecdote, je suis allée voir un psychanalyste qui, dans son intervention auprès des enfants, dit « Moi, je vous vois l'enfant à partir de 4 ans. »
parce que justement ça lui met sa dimension d'être indépendant et différent de moi avec sa raison, sa responsabilité propre. Parce que des fois il dit, moi je vais accompagner un enfant pendant 15 ans, alors si je lui dis tu à 4 ans, comment j'ai pour lui dire vous à 20 ans? Voilà, donc tout est dans cette relation, on parlait de relationnel, tout est là-dedans. Alors nous, effectivement, en CHRS, on a cet avantage de travailler qu'avec des... Enfin, on a des enfants, mais qu'avec des adultes. Et ça, moi, ça m'aide, personnellement, pour mettre une limite.
Merci. Il y a une prise de parole ? Allez-y, alors.
Donc, je suis assistante sociale en pédopsychiatrie. Et ce qui m'a intéressée dans les interventions, c'est ce qui était pointé quand même dans l'évolution de nos institutions et du contexte quand même dans lequel on travaillait. Parce que je pense quand même que si cette question du secret professionnel, s'il y a autant de monde aujourd'hui, c'est bien parce qu'il est quand même malmené. Et moi, je me demande si ça vient quand même pas de la position qu'on a en tant que travailleurs sociaux dans nos institutions. Parce que je pense qu'effectivement, le travail social a énormément changé et que peut-être qu'on a moins une place de où on se pose en tant que personne par rapport au travail avec les familles et en fait avec toute la responsabilité qu'on peut avoir. Et on est un peu pris dans des dispositifs, des changements d'institution, et la réunion de si. Et finalement, il faut faire rentrer la personne qu'on est dans des petites cases. Enfin, moi, je trouve que c'est l'évolution depuis 15 ans est quand même partie là-dedans. Et qu'à force de rentrer les gens dans des petites cases, eh ben, peut-être qu'on oublie qu'on travaille avec des gens. Et que pour aider, il y a une intervention qui m'a bien intéressée qui disait mais il faut qu'on parte des familles et effectivement de leur redonner de la place. Mais comment peut-on donner de la place à des familles si nous-mêmes on ne prend pas de la place qu'on doit avoir dans nos institutions et on n'est pas des pions. Et effectivement, je pense qu'il faut aussi qu'on arrête de se caser dans des dispositifs et qu'on réfléchisse effectivement au sens de notre travail et au pourquoi de nos interventions dans notre travail. Voilà.
Donc moi, c'est un petit peu en écho à l'intervention qui vient d'être faite. Je crois que c'est vrai qu'on a un enjeu très fort à l'heure actuelle. C'est comment on peut faire que le travail social il soit proche des personnes et qu'il puisse vraiment travailler avec les personnes là où elles en sont. Donc on a peut-être une chose qui va un petit peu nous aider. Dans la loi sur le RSA, il est prévu la participation des personnes au RSA dans les équipes pluridisciplinaires. Comment on va être capable de mettre ça en place? Et comment, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on est face à des personnes, on en parle tout à fait autrement. Ou quand une personne est là, qui est vraiment en situation de précarité, il y a un petit peu plus de respect. Enfin, on essaye au moins d'avoir un petit peu plus de respect. Et le deuxième point sur lequel je voulais poser une question qui me paraît importante, c'est que je crois qu'il y a quand même un rôle des cadres, c'est-à-dire comment les cadres dans une institution qui ont en responsabilité l'action sociale, ils se préoccupent et ils estiment aussi qu'eux aussi, ils sont tenus à ce secret professionnel. Donc je crois qu'il y a un point très important, peut-être de mieux faire connaître au niveau de l'encadrement social, mais pas seulement, parce que moi, des fois, au Conseil général, j'entends des choses atroces. Hein. Donc pas seulement, pour que justement, cette histoire de respect, hein, et qu'on applique aussi vraiment la loi de 2002, hein, on a beaucoup de mal à l'appliquer, hein, on a encore un long chemin à faire. Et donc moi, c'est un petit peu ma question, comment les cadres peuvent, quel que soit notre niveau, peuvent s'en saisir, de même qu'aussi comment les professionnels peuvent faire mieux entendre leur voix de ce qu'on a à dire là-dessus. Voilà. Et je crois qu'il y a quand même une urgence. Moi, je dirais que j'attends qu'il y ait une sorte de réseau alerte, comme il y a un réseau alerte pour les personnes âgées en ce moment, vous le voyez, j'attendrai qu'il y ait un réseau alerte un peu là-dessus, et qu'on puisse aussi le faire avec les personnes concernées, parce qu'il y a vraiment une urgence, à mon avis, très importante.
Merci. Je vais y arriver. Revenir sur ce que vous disiez. Bon, Françoise en a dit quelques mots, mais je pense que vous posez un problème que je mettrai en lien avec la question de la posture tout à l'heure des professionnels. J'aurais envie de parler, même si c'est peut-être un peu impropre, de posture des institutions aussi vis-à-vis de leurs professionnels, puisque ces professionnels qui sont souvent en difficulté avec des personnes qui sont en désarroi et dont avec lesquelles il faut qu'elles fassent, qu'elles accompagnent, qu'elles soutiennent. Il faut que les institutions sachent que pour ces professionnels, ce désarroi se transmet à eux, et que les institutions doivent soutenir, doivent accompagner, doivent être bien traitantes avec leur personnel. Et je dis ça pour toutes les institutions, y compris la mienne, parce que je suis dans une institution où je sais que c'est difficile d'être bien traitant quand on est bousculé par des dispositifs et par des injonctions gestionnaires en permanence. Donc je pense que vous posez une question de fond qu'il faut regarder en face tranquillement. Toutes les institutions, évidemment, sont concernées par ça. D'autres prises de parole ? J'espère que j'ai pas cassé l'ambiance. Ok, donc on clôt dans un quart d'heure. Donc vous avez du temps encore pour parler.
Oui, donc oui. Bonjour, je suis étudiante à l'IFTS en deuxième année d'éducateur spécialisé. Et en fait, je vais faire un petit retour en arrière par rapport à ce qui a été dit avant. Donc je suis en stage dans un accueil de jour qui a pour mission le soutien à la parentalité. Et une question me préoccupe beaucoup depuis le début de mon stage vis-à-vis des demandes de dossiers des parents. Donc c'est pas le cas pour toutes les familles, mais il y a beaucoup de familles en fait qui ont un suivi en CMP. Et il faut qu'elles fassent les démarches au SACEP pour une première présentation, puis le SACEP peut les renvoyer vers les assistantes de secteur. Et donc, moi, la question que je me pose, où est la cohérence dans le suivi des familles ? Est-ce que ce n'est pas une forme de non-respect du vécu des personnes, puisqu'elles doivent déballer leur histoire à plusieurs professionnels qui ne sont pas forcément en lien direct ? Donc, c'est une remarque plus qu'une question. C'est du coup la question que je me pose, est-ce que les institutions, les liens que les institutions ont entre elles est réellement cohérent dans la prise en charge des individus.
Donc, vous posez aussi la question de la complexité du partenariat, voire la concurrence entre institutions parfois, ou les désaccords qui peuvent exister sur l'approche de telle ou telle problématique. Ça aussi, je pense qu'il y a du chemin à faire. D'autres prises de parole ? Ah, je ne l'avais pas vu. Au milieu. Allez-y.
Bonjour, ensuite, donc moi je m'occupe de coordination autonomie au Conseil général. C'est simplement une réflexion que je me suis faite sur le circuit de la parole qui est énoncé finalement dans les pauses café. Voilà, juste une petite anecdote. On m'a raconté une histoire d'enfants qui participent à une thérapie, qui sont scolarisés dans la même classe. Donc il y a un des enfants qui a dit, voilà, moi la maîtresse, je l'aime pas, elle est méchante. Et ça a été répété à l'institutrice, puisque les enfants sont dans la même classe. Et l'institutrice, elle s'est sentie visée, forcément, et elle s'en est prise à l'enfant. Alors, je ne sais pas par quel moyen, pas, mais toujours est-il qu'elle n'a pas eu la distance professionnelle avec donc ce qu'avait rapporté l'enfant. Or, le thérapeute du groupe de parole avait bien énoncé la règle que ce qui était dit au sein du groupe de parole, voilà, ne devait pas être divulgué à l'extérieur. Donc, ce qui n'a pas été respecté par les enfants. Donc, moi, la question qui me vient, c'est... En fait, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que ça suffit d'énoncer une loi pour que celle-ci soit respectée, finalement ? Non ? Voilà. Donc, on en revient à tout ce qui a été dit, qui était très intéressant sur la posture, l'éthique personnelle, etc. Et deuxièmement, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir, je trouve, plus sur les conséquences des paroles, certes, qui sont nécessaires, puisqu'on a besoin de s'exprimer et de dépasser tout ce qui a été vécu, mais pourquoi, quelle est la conséquence de la parole dite dans les, devant la cafétéria, quoi, enfin, dans ces lieux-là. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'il ne suffit pas qu'il y ait une loi. Il y a plein de prises de parole au milieu, là, mais il y a... Oui, Christine. Oui.
Voilà. Donc, je suis AS en milieu scolaire. On a beaucoup parlé de pratiques professionnelles, de déontologie professionnelle. Mais moi, je m'interroge, puisqu'on se rend compte maintenant que dans le champ social, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas professionnels. Donc, je pense par exemple aux médiateurs qui vont être embauchés bientôt là, à l'éducation nationale pour traiter l'absentéisme. On a eu les grands frères, les petites sœurs, enfin bref, des tas de gens qui sont intervenus et qui ne sont absolument pas professionnels. Et je trouve que ça, c'est un réel danger de cette déprofessionnalisation du travail social. Et je trouve que bon, la collègue qui vient de parler, là, ça illustre un petit peu ce qu'elle disait, que même des gens qui sont quand même professionnels, je veux dire être instituteur, professeur, bon, on n'a pas la même culture professionnelle. Il me semble qu'en tant que travailleur social, on est vraiment formé dans ce creuset du secret professionnel, de l'éthique professionnelle. Et ce n'est pas du tout la même chose que quand on n'est pas travailleur social. Et ce n'est pas les lois qui vont faire que du jour au lendemain, on va avoir une culture professionnelle sur ce thème précis du secret et du secret et de la préservation de la vie privée des gens.
Merci.
Bonjour, donc moi je suis assistante sociale dans un réseau de santé. Alors ayant eu forcément l'habitude de travailler avec le monde médical, le monde infirmier, etc. Et c'était juste un témoignage pour dire que de l'apport que peut avoir sur les pratiques professionnelles, des entretiens conjoints à plusieurs professionnels, et j'étais très intéressée par votre affaire sur le partenariat et comment travailler ensemble, connaître l'autre et sa profession. Et c'est vrai que à ce moment-là, la question du secret professionnel se pose peut-être un peu autrement, ou en tout cas du secret partagé, puisqu'on est plusieurs professionnels à entendre les mêmes informations dans un même temps. Après, on se partage, on n'est pas forcément toujours ensemble. Mais ça peut aussi décloisonner ce sentiment d'isolement que j'ai entendu quand même beaucoup dans ce que vous disiez, la charge émotionnelle que les situations peuvent avoir sur nous. Alors, ce n'est pas forcément que la seule réponse, mais ça peut être aussi une façon de faire. Et j'ai très peu entendu parler depuis ce matin de choses conjointes, d'entretien conjoint. C'est comme si chaque professionnel travaillait avec l'usager à un moment différent. Peut-être que ça peut être une piste.
Oui, est-ce qu'il y a des suites sur cette remarque, expérience ou... Allez-y, oui.
Oui, bonjour, Thérèse Herry, chef de service Action sociale. Il y a deux choses. Bon, on a beaucoup parlé des échanges informels qui tiennent un peu du défoulement et du manque de lieux formels pour exprimer les difficultés, ça c'est une chose. L'échange de formation, pour moi, ça fait un petit peu écho à la question de la confiance. Quand est-ce qu'on a besoin d'échanger des informations ? Est-ce que si on faisait confiance aux collègues de l'autre service, on aurait besoin de lui redemander ces informations, ou si on peut estimer que son évaluation a été bien menée et que si aujourd'hui il vient de présenter une demande d'admission ou je sais pas, en CHRS, enfin peu importe, c'est pas une question, n'est pas stigmatiser un service ou un autre. Mais pourquoi est-ce qu'on a à certains moments besoin de redemander des détails sur la situation, etc., alors que le travail a déjà été fait? Donc il me semble qu'il y a un petit peu de question de confiance. Et après, il y a les lieux où on a besoin d'échanger, les instances enfance pour l'ASE, etc. Parce que là, on doit mener une évaluation conjointe et on doit proposer la solution la meilleure pour la famille. Là, on a besoin de se concerter et de faire du travail en commun. Donc c'est ces différents niveaux d'échange d'informations qu'il faudrait peut-être questionner.
Oui.
Oui, je suis chef de service à l'aide sociale à l'enfance et pour compléter ce que dit ma collègue, je pense qu'il y a aussi la pratique de travailler à deux, par exemple, qui en a longtemps controversé. Hein, moi, je suis un petit peu ancienne combattante parce que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. C'est vrai que l'apport de deux personnes pour évaluer ensemble une situation avec des usagers, que ce soit, je pense par exemple au traitement des informations préoccupantes, s'est développé et je trouve qu'effectivement, même par rapport aux usagers eux-mêmes, ça apporte une certaine crédibilité à notre évaluation et c'est pas forcément négatif aussi pour eux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été évolué parce qu'on a bien défini le cadre dans lequel l'intervention se faisait à deux et non pas une seule personne dans l'évaluation qui est parfois très très complexe. Voilà.
Merci. Il y a deux prises de parole. Il y a Chantal et ensuite au fond ou le contraire. Vous aviez levé la main. Allez-y au fond, puis ensuite Chantal.
Pour aller dans la suite donc, de ce que viennent dire les deux collègues, je trouve que du coup, il faut quand même souvent se reposer la question du pouvoir du travailleur social quand il a récolté la parole de la personne. Effectivement, la personne va avoir confié au travailleur social beaucoup de choses et il faut vraiment que le travailleur social se repose la question avant de transmettre et de partager de cette drôle de relation duel qui n'est jamais équilibré puisque l'autre en face il est en difficulté et du coup il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que je transmets et quel pouvoir j'ai en tant que travailleur social par rapport à la personne et par rapport à ce que je vais transmettre de ce qu'elle m'a donné parce que après il y a effectivement les cadres qui n'ont pas elles vu la personne mais qui vont partager pour décider quelque chose donc je trouve qu'il faut être très vigilant.
En le disant autrement, vous abordez aussi la question de la posture, là, effectivement, qui, sur laquelle on revient, mais je crois que c'est essentiel de ne pas lâcher là-dessus. Chantal, à toi.
On va continuer pour ne pas lâcher là-dessus. Donc moi, je suis un peu porte-parole de l'angle là, à gauche, en bas de la salle, parce qu'on a réagi à l'intervention, je pense que ça devait être une de celles d'avant, sur le fait que quand on dit les enseignants, les travailleurs sociaux, on n'est pas pareil. Certes, on n'a pas la même formation, on n'a pas le même métier non plus. Et je crois que vraiment, il y a des enseignants qui ont beaucoup d'éthique et de respect des familles. Il y a des élus qui ont de l'éthique et du respect des familles. Et je crois qu'il faut qu'on fasse très, très, très attention. C'est pour ça que je dis que je suis le porte-parole parce qu'on a un peu tous réagi. Il faut qu'on fasse très attention à comment ensemble, mais ça sera peut-être abordé dans la table ronde de cet après-midi, il y a le secret professionnel, les textes, etc. Mais après, il y a aussi, et on en a rencontré des nombreux dans d'autres carrières, des gens avec qui l'on peut travailler. On n'est pas obligé de tout dire, effectivement. On pourrait faire 15 journées d'études avec tout ce qui a été dit ce matin hein, sur l'évolution de l'action sociale, ce qu'on demande aux gens, etc. Et je crois vraiment qu'il faut que nous, on soit vigilants, parce que nous, on peut apprendre aux autres. Aussi, dans, on a à travailler ensemble, bah, du coup, quelles règles communes on se donne? Enfin, moi, ça me semble essentiel, parce que sinon, on est dans l'opposition des métiers les uns avec les autres. Or, de toute façon, aujourd'hui, on a à travailler ensemble.
L'expérience de la réussite éducative, enfin, dans l'Isère en particulier, a été un peu sur cette position de dire... c'est cet après-midi, mais on est obligé de partager comment on s'y prend, quoi. Et ça a permis de faire bouger des choses. À vous.
Je suis responsable action sociale au Conseil général de l'Isère. On a parlé effectivement de la posture professionnelle. On a été interpellé aussi en tant que cadre. Moi, je voudrais aussi poser la question, et par rapport à ce qui vient d'être dit à l'instant, sur comment aussi on partage avec nos élus. Puisque je pense que c'est aussi un pilier important. Nous, nos élus sont aussi nos employeurs. Comment, lorsqu'on nous demande de répondre à cette question, on leur fait comprendre que nous sommes soumis au secret professionnel ou missionnel et comment, avec eux, on peut essayer de partager notre culture.
Bien. Travail pédagogique, donc, que vous proposez, qui effectivement est essentiel. Alexandra veut parler. Et puis, non, mais je t'ai interdit, mais ça se voit que je t'ai interdit. Vas-y.
Non, vas-y, vas-y. Oui. Je voulais juste revenir sur la question du pouvoir. Du travailleur social et surtout sur le fait qu'on a parfois le sentiment que en sachant beaucoup de choses, en sachant tout, on a une maîtrise de la situation et qu'effectivement on a un pouvoir.
Moi, ma question, c'était est-ce qu'on a besoin de tout savoir, et est-ce que réellement tout savoir, ça nous donne une maîtrise? Moi, des fois, je suis face à des collègues ou d'autres interlocuteurs qui me disent, qui me déballent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, comme s'ils connaissaient super bien la situation, comme si, effectivement, et puis il y a les trois quarts des trucs, ça sert à rien, quoi. Donc, ça rejoint la question du pouvoir et de la maîtrise de ce qui nous est dit et de la situation. Voilà, je voulais rebondir sur ça.
Encore une prise de parole, et puis peut-être après... Ah, ça y est, il y en a beaucoup maintenant que c'est l'heure. Allez-y.
Donc, je suis infirmière, donc pas trop dans les assistantes sociales. Mais en même temps, je voudrais dire que le travail que l'on fait autour d'une situation dans un service hospitalier qui respecte aussi un secret médical correspond à des choses aussi importantes. Et je voudrais dire simplement qu'on travaille en équipe très souvent autour d'une situation. Il y a le médecin, il y a d'autres infirmières. Et je me rends compte, en travaillant depuis peu dans un service plus orienté social, qu'on est plus seul devant les situations. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la personne concrètement sur un temps défini pour étudier ensemble et effectivement avoir des objectifs communs. Et je trouve que là, il y a une grosse difficulté que moi je ressens maintenant en étant dans ce milieu plus orienté social. Donc là, c'est une chose. Je trouve qu'il y a énormément de personnes qui gravitent autour des personnes demandeuses qui ont besoin de personnes de confiance. On a un problème financier, on va voir notre banquier. On a un problème médical, on va voir notre médecin. On a un problème social, on va voir l'assistante sociale. On a besoin de quelqu'un qui nous donne des réponses stables et un climat de confiance. Et je trouve que parfois, on se retrouve devant des professionnels qui n'ont pas les formations, justement, pour nous aider à avoir cette réponse qu'on attend. Je veux dire, je veux m'asseoir sur une chaise, s'il lui manque un pied, je vais tomber. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont autour de ces personnes en difficulté qui ont besoin vraiment d'un climat de confiance et de professionnels formés. Voilà.
Merci. On va passer la parole à Carole Simard, qui l'a demandé, qui est adjointe au maire sur Échirolles, qui a une longue pratique des travailleurs sociaux. Je peux en témoigner en tant qu'élue.
Oui, je suis élue au logement. Donc j'ai une habitude de travailler avec les assistantes sociales, entre autres, soit sur une commission sociale qu'on a... Si ? Bon, si, ça repart. Soit sur quelque chose qui m'interpelle vraiment, après la discussion que j'ai entendue ce matin, c'est la commission d'Allo, ou la future commission sociale intercommunale qu'on va mettre en place. Du coup, quelle information partager avec les travailleurs sociaux? Dans ces commissions, on a besoin d'avoir des éléments. Si on les a pas, on ne peut pas travailler correctement, soit sur le lieu où on va loger les gens ou sur d'autres problèmes. Du coup, jusqu'où on peut aller le partage des informations? Jusqu'où? Bien sûr, on est dans des lieux qui restent où l'information ne doit pas sortir de ces lieux-là, mais jusqu'où on peut aller? Ça m'interroge aussi sur mes permanences quand je reçois les gens qui me donnent des informations qu'ils ne donnent pas au service. Quand on voit l'élu, on voit pas le service, c'est pas du tout la même chose. Jusqu'où je peux redire des choses dans le service? Du coup, ça, je suis bien contente d'être venue là ce matin parce que je n'ai pas de réponse quand même, mais ça pose beaucoup de questions et je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler sur ces points-là. Il y a des lois, la loi pour la DALO, mais quid de ce qu'on fait de cette commission-là. En tout cas, moi, ça me pose des questions et je pense que j'ai pas fini que ça m'en pose.
Ok, merci Carole. On va considérer que c'est la conclusion de la matinée, hein, qui nous interroge sur la nécessité de rester humain et attentif dans un contexte de plus en plus difficile. Merci beaucoup. À tout à l'heure, 14h précise.